Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
RMC, Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. On va aller sur les bords de la Garonne dès le début de ce journal ce matin sur RMC. Pourquoi ? Parce que le sud-ouest est encore en alerte. Les pompiers redoutent une remontée rapide de la Garonne qui coupe du monde encore certains villages ce matin, vous verrez. L'ultra-gauche pointait du doigt donc après la mort d'un militant nationaliste à Lyon la semaine dernière. Le parquet doit prendre la parole dans la journée. Et nous irons aux Jeux Olympiques 2000 en Cortina sur RMC, radio officielle, où on attend beaucoup des Français ce matin dans l'épreuve du slalom en ski alpin.
On se croirait à l'océan, voilà ce que dit le maire d'une petite ville inondée dans le sud-ouest.
Oui, tellement l'eau s'étend dans les champs en bordure de Garonne. Lucas Laubert, vous confirmez, vous êtes en direct de Langon ce matin pour RMC. C'est entre Bordeaux et Agen où la Garonne déborde, comme dans beaucoup de villes et villages où elle passe. Lucas, vous nous dites que c'est toute une partie de Langon qui est inondée.
Oui, les bords de Garonne sont tout simplement méconnaissables. Les caisses sont entièrement sous l'eau. Les panneaux de signalisation presque totalement submergés. Le fleuve pointe ce matin à 9,70 m à Langon. Une habitante me confie n'avoir jamais vu ça depuis la crue de 1981. De nombreuses maisons sont totalement inondées. Presque 2 mètres d'eau dans certaines d'entre elles. La galère sur les routes aussi. Ponts coupés, routes barrées. J'en ai fait l'expérience ce matin. Presque une heure de détour simplement pour traverser le fleuve. De petits embouteillages se forment même dans certains villages avec les nombreux automobilistes désorientés. Et tout cela ne semble pas près de s'arranger puisque depuis hier et encore en ce moment sous mes yeux, la pluie tombe sans discontinuer. Vigicru prévient, si un petit pic a été atteint hier, l'eau va reprendre sa montée.
Lucas Laubert en direct de Langon ce matin pour RMC. Ce matin, il y a la préfecture de Gironde qui met en garde contre les intoxications au monoxyde de carbone avec les utilisations d'appareils à combustion comme les groupes électrogènes ou les chauffages d'appoint. Et il y a l'eau qui monte aussi à Paris. Une partie des quais est fermée depuis hier soir dans la capitale, la Seine étant 2 à 3 fois plus élevée que d'habitude selon les derniers relevés de Vigicru. À Lyon, l'ultra-gauche est donc montrée du doigt après la mort du jeune militant nationaliste de 23 ans prénommé Quentin Rouille-Lecouste jeudi dernier dans des affrontements en marge d'une conférence à laquelle était conviée l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. L'ultra-gauche est manifestement à la manœuvre, voilà ce que disait hier soir le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, comme l'avait dit un peu plus tôt dans la journée le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Julie Brault, vous êtes en direct de Lyon pour RMC ce matin où le procureur va faire un point sur l'enquête dans la journée pour peut-être donc lever les zones d'ombre.
Oui, un point presse très attendu à partir de 15h cet après-midi, au cours duquel le procureur devrait notamment détailler les témoignages significatifs recueillis par les enquêteurs ces derniers jours. Témoignages qui pourraient permettre, je cite, l'identification des auteurs directs des violences. En parallèle, grâce à l'analyse de la téléphonie et des caméras de vidéosurveillance, les enquêteurs ont pu retracer l'enchaînement des faits. Et d'abord, un premier affrontement à proximité de Sciences Po entre une quarantaine de jeunes de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite. Et puis, dans une ruelle, à quelques mètres de là, un lynchage en règle contre 3 jeunes militants nationalistes identitaires par une quinzaine de membres de l'autre camp, des jeunes cagoulés et masqués qui ont violemment frappé Quentin à coups de pied dans la tête, comme l'atteste une vidéo témoin identifiée par la police. Et des images qui devraient permettre de remonter rapidement jusqu'aux auteurs de ces violences, identifiés par l'extrême droite comme des membres du groupe antifasciste La Jeune Garde, dissous en juin 2025. Une thèse qui, à ce stade, n'a pas été confirmée par le parquet de Lyon.
Julie Brault du service police-justice à RMC. La France insoumise qui est mise en cause par la droite et l'extrême droite assure qu'elle n'a rien à voir avec cette histoire. Mais ce matin, Raphaël Glucksmann du mouvement Place Publique dit qu'il est, je cite, « impensable que la gauche cultive le moindre doute sur une alliance avec la France insoumise ». Voilà pour les conséquences politiques. On parlait du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Il sera en Algérie aujourd'hui et demain. Un déplacement de 2 jours, Thomas Becker du service politique à RMC, sur fond de tensions diplomatiques entre les deux pays.
Oui, Laurent Nunez veut déjà renouer le dialogue avec l'Algérie. Dans son entourage, voilà ce que l'on dit sur la situation que le ministre a trouvée à son arrivée en septembre. Aucun contact entre les deux pays. Tout était bloqué, une manière de se démarquer de la méthode du bras de fer engagée par Bruno Retailleau. Depuis des semaines, Laurent Nunez intime à ses services de reprendre les échanges avec leurs homologues algériens sur 2 dossiers sensibles, le terrorisme et la lutte contre le narcotrafic. À Alger, il sera bien question du retour en Algérie des ressortissants en situation irrégulière sur le sol français, mais le ministère de l'Intérieur se garde bien de fixer des objectifs chiffrés. Enfin, le cas de Christophe Glaize, journaliste emprisonné dont la France réclame la libération, sera bien évoqué. Mais là aussi, Beauvau prévient, il se peut que la visite n'aboutisse à rien.
Les débats sur la fin de vie et plus précisément ceux sur l'aide à mourir reprennent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le texte est de retour après son rejet au Sénat fin janvier. Autre thématique qui sera évoquée aujourd'hui, c'est cette proposition de loi des députés Ensemble, soutenue par le Bloc central et la droite, pour permettre aux commerçants d'utiliser l'intelligence artificielle dans leur lutte contre les vols. Et comment? Eh bien, via un système de vidéosurveillance qui repère les gestes suspects des clients, grâce donc à l'intelligence artificielle. Entre 2 et 3000 magasins en sont déjà équipés, mais il existe un flou juridique et l'idée est donc de le combler. Voilà à quoi ça ressemble ce système avec Célestin Bougère pour RMC.
Au fond de sa supérette, dans une petite salle fermée, la co-gérante a les yeux rivés sur les vidéos de surveillance.
Récemment, il y avait des jeunes qui sont venus, ils ont vidé carrément le rayon café.
Vous savez à peu près combien ça représente de pertes pour le magasin, ce genre de vol?
C'était 800-900 euros.
Par mois, vous savez à peu près, vous avez des chiffres?
Ça atteint les 5000 euros par mois, 4000-5000 euros par mois.
L'aide de l'intelligence artificielle serait la bienvenue pour elle. Michel Mantelet tient lui un magasin à Cherbourg. Il a installé il y a 3 ans déjà un système de ce type sur ses caméras de surveillance.
J'ai une application en parallèle qui est sur mon téléphone. Quand l'IA détecte des gestes ou des postures ou des mouvements potentiellement de vol, je reçois des alertes. Le mois dernier, ça nous a permis de récupérer à peu près 300 euros de marchandises qui auraient été volées.
À gauche, les députés craignent de potentielles atteintes à la vie privée. À la sortie de cette supérette parisienne, Hubert est partagé.
Ça fait flipper, c'est normal, c'est la technologie. Après, si c'est pour éviter de mettre quelque chose dans ta poche et de ressortir avec, moi, je trouve que c'est bien. Si les commerçants ils sont plus à l'aise, moi, ça m'impactera pas.
Certains commerçants disent ne pas avoir encore sauté le pas de l'IA à cause du prix et du manque de précision de ces équipements.
C'est la deuxième semaine qui commence aux Jeux Olympiques.
RMC. Radio officielle des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
Et ça commence fort avec ce matin le slalom en ski alpin dans la station de Bormio. On vous y retrouve en direct, Léna Marjac, en direct sur place pour RMC. Les Français brillent cette saison dans cette discipline. Alors forcément, on les attend au rendez-vous.
Oui, 7 podiums cette saison en Coupe du Monde pour nos slalomeurs français, dont 3 victoires. Donc évidemment, nos tricolores sont attendus, notamment Clément Noël, le champion olympique en titre de la discipline. Alors il s'élancera avec le dossard 4. Comme en 2022 quand il s'était imposé à Pékin, on espère que ce numéro lui portera chance. Et la France peut compter aussi sur Paco Rassa, 27 ans, premier Jeux Olympiques, mais double vainqueur en Coupe du Monde cette année. Donc il arrive en pleine confiance. Et enfin, Steven Amier et Léo Anguenaud viennent compléter la liste de départ du slalom. Le ski alpin tricolore compte une seule médaille dans ces Jeux Olympiques avec l'argent de Roman Miradoli. C'est donc la dernière opportunité pour les hommes du ski alpin d'ouvrir leur compteur de médailles. Et pour ça, il faudra le faire sous la neige. Ici à Bormio.
Léna Marjac en direct de Bormio, donc pour RMC. La France en est à 15 médailles, record égalé. Il y en a 4 en or, dont celle des danseurs sur glace, Guillaume Cizeron, Laurence Fournier-Baudry, qui seront les invités exceptionnels du Super Moscato Show cet après-midi à 15h sur RMC. Nul doute qu'ils reviendront dans le Moscato Show sur la belle victoire des Bleus du rugby 54-12 au Pays de Galles hier, deuxième match du tournoi Destination. En attendant de les revoir contre l'Italie, ce sera dimanche. Les Bleus disent qu'ils refusent de parler du grand chelem, mais évidemment, on a le droit de ne pas les croire.